savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Savoir Plus. Cette semaine, deux sujets toujours en lien avec l'épidémie de coronavirus. Le témoignage tout d'abord d'Hélène Alissa, elle est connue dans la région comme chanteuse, mais son vrai métier, c'est kinésithérapeute. Elle nous expliquera dans quelques instants comment se déroule son activité réduite aujourd'hui aux interventions d'urgence. Et dans un second temps, nous avons interviewé la directrice de l'EHPAD de Courrières, Madame Lejeune, qui vous donnera quelques nouvelles des résidents de cet EHPAD. Une interview enregistrée mardi dernier. Hélène Alissa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes kinésithérapeute sur la Côte d'Opale, mais connue aussi comme chanteuse dans la région. On en reparlera à la fin de cette interview. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, quelle est votre situation à l'heure d'aujourd'hui ?
À l'heure d'aujourd'hui, ma situation, c'est que je suis à la maison avec mes enfants qui où je ne travaille plus. Mon cabinet de kiné est complètement fermé et donc voilà, donc je m'occupe des enfants au niveau des travaux scolaires et puis de la maison, voilà.
Est-ce que sur le plan économique c'est difficile?
Alors j'ai la chance quelque part d'avoir mon mari qui est salarié et qui touche toujours son salaire, surtout que lui travaille encore, donc il n'est même pas au chômage. Moi, par contre, au niveau revenu, je n'ai absolument plus rien qui rentre. Il faut savoir que tout ce qui est profession libérale, quand on travaille, on a de l'argent. Quand on n'en a pas, quand on travaille pas, on n'a pas d'argent. Mais par contre, il y a toujours les charges d'URSSAF et tout ça qui tombent. Donc, même si elles ont été aménagées vu la situation exceptionnelle, il y a quand même des charges à payer.
Alors, vous me disiez en préparant cette interview que votre secteur semblait pour l'instant moins touché, hein, secteur situé sur la Côte d'Opale, mais évidemment en raison du secret médical, on ne précise pas où. Hein. Voilà. Comment êtes-vous organisé justement pour répondre aux demandes éventuelles des hôpitaux? Ça se passe comment?
Alors, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Donc, au niveau vraiment au sein du cabinet, notre numéro est toujours joignable. Donc je travaille avec des collègues et on fait un tour de rôle. Les collègues et moi-même se rendons régulièrement au cabinet pour savoir s'il y a des messages sur le répondeur. Nous répondons aux messages les plus urgents. Pour l'instant, nous avons effectivement, comme le secteur n'est pas grandement touché, nous avons la chance de ne pas avoir eu à répondre vraiment à des soins urgents. Après, au niveau des hôpitaux, c'est une réserve sanitaire qui est mise en place, si vous voulez, et on peut être appelé à tout moment pour aller renforcer dans les hôpitaux.
Voilà, là, pour l'instant, vous me confirmez que vous n'avez pas encore dû intervenir dans ce cadre-là?
Non, effectivement.
Alors, vous risquez donc d'intervenir dans le cadre de soins de suite, c'est-à-dire auprès de patients qui ont dû être mis sous respirateur et qui s'en sont heureusement sortis. En quoi consistent les soins pour vous dans ce cas précis?
Alors, ça peut être deux types de soins. Enfin, je dirais même plus que ça. Il y a, au point de vue physique et au point de vue respiratoire en lui-même, on peut être amené à soit faire de la kiné respiratoire de désencombrement, comme on en parle souvent chez les enfants, mais ça se passe aussi chez l'adulte. Oui. Et donc, il faut continuer à désencombrer la personne. Soit on peut être amené aussi à faire une kiné respiratoire, pardon, de type d'amplification des volumes. C'est-à-dire que les personnes qui ont subi un traumatisme au niveau pulmonaire peuvent se trouver avec une respiration, comme on pourrait dire, qu'on a le souffle court. Et notre but dans ce cas-là, c'est d'essayer d'augmenter les volumes respiratoires. Et donc voilà, ça se passe par d'autres exercices en fait.
Est-ce que vous avez des échos de la situation de vos collègues kinésithérapeutes comme vous?
Alors, les collègues au sein du cabinet, oui, forcément, puisque on se contacte par Messenger. Si c'est pas tous les jours, c'est tous les deux jours. Après, avec les autres confrères et consœurs, j'ai des contacts plus d'ordre réseau social, si vous voulez. Il y a des groupes de kinés qui se sont formés au niveau de Facebook et autres. Alors, la situation est différente, je ne vais pas dire pour tout le monde, mais pratiquement, en fait. Il y a ceux qui sont fortement touchés, dont les régions sont fortement touchées. Il y a ceux qui, financièrement, ne pouvaient pas se permettre, et ce que je comprends tout à fait, qui ne pouvaient pas se permettre de fermer les cabinets et qui continuent à travailler avec toutes les précautions possibles et imaginables. Donc voilà, chacun fait comme il peut, je dirais, vraiment, et pas du tout comme on veut.
Alors, on sait qu'à l'annonce du confinement, plusieurs habitants de la région Île-de-France et sans doute d'autres régions sont venus se réfugier, entre guillemets, sur la côte d'Opale. Est-ce que pour vous, cet afflux de personnes d'autres régions, où le nombre de cas était visiblement plus important, constitue une crainte?
Une crainte? Oui, mais je pense que de toute façon, qu'elles soient par ici, que ces personnes soient par ici ou par là, il y a toujours une crainte. On empêchera, malgré le confinement, vous ne pouvez pas forcément empêcher les gens de bouger. Et ce virus évolue, malheureusement, il se déplace, je dirais, oui, avec le déplacement des personnes, mais sachant que certaines personnes continuent à travailler parce qu'il le faut, ou soit parce que voilà, ce sont des soins des professions de soins, pardon, ou des professions, je dirais, par exemple, comme mon mari qui continue à travailler, qui lui pourtant travaille en usine, rien que par ça, le virus peut se transmettre. Donc les gens qui sont venus se réfugier par chez nous, est-ce une crainte? Je dirais pas plus que le reste.
Alors justement, vous parlez de la situation de votre mari à l'instant, qui travaille dans une usine et ne comprend pas devoir être obligé de travailler, hein, d'après les informations dont je dispose. Il estime que la production de l'usine, alors c'est une usine qui fabrique des stylos, je crois, n'est pas essentielle à la nation. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, sa situation est toujours la même, ou est-ce qu'il y a quand même eu des mesures de prise au sein de l'usine où il travaille?
La situation est toujours la même, c'est-à-dire dans le cadre où il continue à travailler, mais par contre, les modalités de travail sont complètement différentes. Alors certes, il travaille, la production se fait toujours, mais au sein de l'entreprise, ils ne se croisent quasiment plus. Chacun, entre guillemets, je dirais, travaille dans son coin. Quand ils sont obligés d'être plus ou moins en contact pour pouvoir intervenir sur les machines, il y a une personne qui intervient, l'autre se retrouve de l'autre côté de la machine. Voilà, il y a des distances qui sont mises en place. La direction a mis en place un système de nettoyage, de désinfection renforcé. Les solutions hydroalcooliques sont quasiment à chaque coin de l'usine, enfin même un peu partout, pour pouvoir se désinfecter les mains et éviter la propagation du virus. Mais voilà, tout est toujours relatif, puisque une fois qu'il y a contact, même loin, on n'est jamais à l'abri. Mais comme si on allait, quand on va faire ses courses, c'est pareil, en fait. Faut continuer, entre guillemets, à vivre avec des protections, en se protégeant le maximum. Et là, c'est continuer à travailler, malgré que, effectivement, la production n'est pas d'utilité public au niveau de la santé. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, il faut faire avec, et on prend toutes les dispositions possibles et imaginables pour le faire, quoi.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
11h11 sur Radio Plus, vous êtes toujours dans l'émission Savoir Plus et nous sommes ce matin en compagnie d'Hélène Alissa, kinésithérapeute sur la Côte d'Opale et par ailleurs chanteuse de la région. Alors, je reviens à votre métier hein, de kinésithérapeute. L'ordre des kinésithérapeutes a demandé justement aux kinésithérapeutes comme vous de fermer leur cabinet, hein, vous l'avez dit en début d'interview. Or, Pascal Mathieu, la présidente hein, de l'ordre, s'alarmait hier dans les colonnes du Figaro des séquelles et des pertes de chance que risquent de connaître les patients privés de kinésithérapie à cause des mesures de confinement, notamment, je cite, les personnes âgées fragiles et isolées qui passent leur journée dans un fauteuil et ne font même plus le peu d'exercice que leur faisait faire le kiné. S'ils chutent, faute d'entretien, ils iront occuper des lits à l'hôpital. Fin de citation. Est-ce que ce cas de figure est aussi une source d'inquiétude pour vous vis-à-vis de certains de vos patients? Est-ce que des médecins vous alertent aussi par rapport à des patients qui sont dans ce cas? Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez malgré tout continuer à les prendre en charge?
Alors, il y a beaucoup de questions d'un seul coup là.
Oui.
Mais en fait, je vais vous dire que justement, en fait, c'est quelque chose qui m'inquiète effectivement. Ça fait plusieurs jours que je me dis, bon, ça m'est déjà arrivé de partir d'être en vacances et d'être en vacances 15 jours et de ne pas avoir réussi à avoir de remplaçant, et donc mes patients étaient obligés de rester 15 jours sans soins. Là on arrive à 3 semaines, c'est une situation qui se prolonge, qui malheureusement continuera, enfin va encore se prolonger quelques temps, jusque quand personne le sait. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je sais que j'ai dans mes patients des personnes qui ne bougent que quand moi je viens. Et donc je prends régulièrement des nouvelles de ceux que j'ai dans mon portable ou des plus fragiles. Et justement, ce matin, j'ai envoyé des messages, soit à eux, soit à la famille. Et justement, j'ai eu un retour ce matin d'une fille qui s'est alarmée de la situation de son papa. Et c'est quelque chose qui vraiment m'embête, puisqu'on se retrouve face à un dilemme. Soit on continue à protéger la personne, c'est-à-dire à ne pas y aller.
Oui.
Et malheureusement, cette personne va continuer à ce qu'on appelle tomber dans un syndrome de glissement.
Oui.
Et qui peut continuer à et qui peut enchaîner sur une immobilité entre guillemets, si vous voulez, un manque de mobilité, un manque d'autonomie complète, jusqu'à dériver avec le côté psychologique, jusqu'à dériver à une dépression, jusqu'à la mort, malheureusement, on le sait. Soit je me dis j'y vais, je prends le risque d'y aller malgré toutes les précautions possibles et imaginables, et essayer et faire tout en sorte pour la remettre physiquement au point entre guillemets, et mais on prend le risque de contamination du Covid-19. Donc c'est un très très grand dilemme en fait.
Et est-ce que justement vous êtes équipé suffisamment en termes de protection sanitaire, masques, gants, etc. Est-ce que dans le cas où vous souhaiteriez intervenir à domicile chez une personne, est-ce que vous avez toutes les protections nécessaires?
Alors moi, à l'heure actuelle, pour l'instant, je n'en ai pas. Pourquoi? Parce que je ne travaillais pas. Donc qui m'était entre guillemets réservé au niveau des pharmacies, je n'allais pas le chercher. Ça pouvait très bien servir à quelqu'un d'autre. Maintenant, si je suis amenée à retourner voir certains patients, soit pour des patients en soins urgents de kinésithérapie respiratoire, soit pour éviter des hospitalisations, donc notamment pour des personnes âgées, j'ai possibilité d'aller chercher des masques en pharmacie. C'est formé, voilà, avec ma carte professionnelle. Tout professionnel de santé en fait a une carte de professionnel de santé. Grâce à cette carte, à présenter en pharmacie, on peut demander à obtenir des masques. Il faut savoir que nous, en tant que kinés, en fait, tout est réparti par profession, si vous voulez.
Oui.
Et nous, en tant que kinés, nous avons droit à 6 masques par semaine.
D'accord.
Il y a eu tellement d'abus, si vous voulez, quelque part, malheureusement, comme dans tout, que maintenant c'est réglé à la semaine pour tout professionnel de santé. Donc nous, en tant que kiné, c'est 6 masques à la semaine. Dans ces masques, il me semble qu'il y a 2 masques FFP2. Et seulement 2, je dirais quelque part, puisque quand vous avez des soins de kiné respiratoires à faire, c'est tous les jours et non pas 2 fois par semaine. Après, tout ce qui est gants, c'est plutôt, nous avons la chance d'avoir fait une réserve sans le vouloir, je dirais, avant, mais nous avons ce qu'il faut au niveau du cabinet. Mmh. Par contre, les gants, c'est ça. Par contre, tout ce qui est blouse et tout ça, on n'en a absolument pas.
Ce qui veut dire que le faible nombre de masques que vous pouvez avoir par semaine limite aussi considérablement vos possibilités d'intervention.
Bah, également, voilà, tout à fait, puisque si j'ai un patient qui est atteint du Covid-19, qui avant d'être hospitalisé, on me demande en tant que kiné d'essayer de le désencombrer pour éviter l'hospitalisation, c'est des soins qui sont à faire tous les jours, et en l'occurrence je n'ai que 2 masques FFP2 pour la semaine. En l'occurrence, une fois qu'il a servi une journée, 4 heures, c'est tout. Il n'est plus utilisable.
Alors, est-ce qu'il vous arrive également de donner des conseils à distance à certains de vos patients pour qu'ils puissent poursuivre des exercices chez eux ?
Oui, bien sûr. Le confinement a été déclaré le lundi 16, si je me souviens bien. Cette journée-là, en fait, j'ai fait venir les gens qui, notamment par exemple, j'avais une personne qui était opérée d'épaule depuis un mois, 6 semaines. Je l'ai fait venir et la séance s'est résumée à lui donner des exercices à faire le temps du confinement. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont soit contacté directement, soit moi j'ai contacté pour savoir comment ils allaient, et en retour, ça va, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai mal là, j'ai ça qui va pas, qu'est-ce que je peux faire? Et voilà, oui, des conseils à distance, ça se fait, c'est très compliqué. On ne peut pas malheureusement le faire pour tous les patients, mais ça se fait.
Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, quand doivent-ils s'alarmer ? Est-ce que c'est le fait de tousser plus que d'habitude, par exemple ?
C'est pas le fait de tousser davantage, puisqu'on va arriver dans les périodes d'allergie, donc la toux peut se déclencher pas simplement par une allergie. C'est vraiment le fait de la toux additionnée à la température, additionnée au maux de tête. Et ce qui doit vraiment être alarmant, c'est la toux qui fait mal et cette sensation d'étouffement. Et voilà, on s'alarme plus au moment où on se dit qu'on a du mal à respirer. Cette toux qui fait mal, c'est vraiment ça. C'est vraiment le signe qui est révélateur de l'aggravation, en fait.
Un dernier message justement à passer à tous celles et ceux qui nous écoutent justement. Quel message voulez-vous faire passer ?
Le message que je veux faire passer, c'est prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et pour cela, et pour que ça dure le moins longtemps possible, restez chez vous au maximum. Vraiment, c'est vraiment ça qui peut faire que cette pandémie s'arrête le plus vite possible. C'est vraiment de rester confiné le plus possible.
Alors, Hélène Alicia, pour terminer, vous avez aussi une passion, la chanson. Est-ce que vous mettez cette période particulière à profit pour écrire, composer, répéter ?
Alors, je vous avoue que écrire, j'ai pas encore eu le temps, parce que les enfants avec l'école à la maison, ça me prend pas mal de temps, donc j'ai pas vraiment encore eu le temps. Par contre, répéter, oui, bien sûr, j'ai une chanson qui était presque finie d'enregistrer avant le confinement, et grâce à la technologie actuelle, j'ai réussi à la peaufiner, et mon compositeur, qui est Dominique Hulot, a réussi à la peaufiner. Et donc, incessamment sous peu, je dirais, elle devrait voir le jour. Et donc, je suis plus dans la répétition, dans la préparation de futurs concerts à la rigueur plutôt que vraiment dans l'écriture, mais c'est juste parce que j'ai pas encore trouvé le temps, on va dire.
Très très bien. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Hélène Alicia, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bon courage évidemment pour la suite, en espérant évidemment que la situation s'améliore.
Bien sûr. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Hélène Alicia sur Radio Plus à l'instant, que nous avons interviewé et qui nous a donné quelques précisions ce matin par téléphone, car elle a reçu en tant que kinésithérapeute de nouvelles directives.
Depuis lundi, en fait, on a eu, au niveau de l'ordre des kinés, l'autorisation de faire les soins post-opératoires maintenant. Alors maintenant, exactement, ces soins post-opératoires, ces soins en rapport avec un cancer, donc tout ce qui est oncologie, mais soins nécessitant, pour éviter une hospitalisation. D'accord. Le maintien à l'autonomie dans les cas les plus sévères, personnes âgées et polyhandicapées. Et l'épine respiratoire.
Voilà, Hélène Alissa qui s'exprimait à l'instant sur l'antenne de Radio Plus, information toute récente que j'ai eue il y a quelques minutes. On s'intéresse à présent à la situation dans les EHPAD. J'ai interviewé Marie-Laure Lejeune, directrice de l'EHPAD de Courrières, qui fait le point avec nous sur la situation actuelle au sein de son établissement. Marie-Laure Lejeune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'EHPAD de Les Violettes, située à Courrières. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Comment se portent actuellement les résidents et résidentes de votre établissement ?
Les résidents se portent plutôt bien, enfin même très bien, compte tenu du contexte.
Alors qu'en est-il des personnels de votre EHPAD ? Comment êtes-vous organisé justement pendant cette période particulière ?
Alors, le personnel de l'établissement, malgré le contexte, est présent et s'engage au quotidien dans la bonne humeur auprès des résidents. Et du coup, je voulais en profiter pour les remercier parce qu'ils ont vraiment un engagement qui est admirable et on sait qu'on peut compter sur eux, donc c'est vraiment très appréciable.
Alors, quelle est votre situation concernant cette fois le matériel sanitaire et médical, à savoir les masques, le gel hydroalcoolique ? Est-ce que vous avez été jusqu'à présent suffisamment achalandé ?
Alors, concernant le matériel, on a aujourd'hui suffisamment de matériel pour permettre aux professionnels de travailler dans les bonnes conditions. Pourquoi ? Parce qu'on a anticipé un maximum de choses très tôt dans la gestion de cette épidémie. Et puis, on a la force associative de l'association La Vie Active qui a assez rapidement fabriqué des masques en tissu, qui donc nous sont propres et qui nous ont permis de gérer les périodes un peu tendues. Cela dit, là, depuis quelques semaines, on a un approvisionnement régulier, toutes les semaines, de masques chirurgicaux par l'ARS.
D'accord. Donc, aucun problème de ce côté-là ?
Pas de problème, non. On a l'ensemble du matériel nécessaire au bon déroulement des missions des professionnels qui travaillent dans les EHPAD.
Alors, Madame Lejeune, vous m'aviez dit que pour l'instant, il n'y avait pas de cas avérés de Covid-19 au sein de votre établissement, ni même de cas suspects. Cependant, vous avez bel et bien la possibilité de tester les résidents si le besoin se faisait sentir.
Oui, tout à fait. Depuis maintenant quelques semaines, on a cette possibilité-là et à la moindre suspicion, nous pouvons, grâce à notre laboratoire de référence, faire tester tout résident ou tout professionnel d'ailleurs qui présente des symptômes. Et ça fonctionne très très bien parce que on a des retours rapides et du coup ça nous permet d'avoir un vrai suivi et de mettre en place les mesures adaptées.
Ce sont quel type de tests ?
C'est le laboratoire de la ville, le laboratoire de référence avec lequel on travaille, qui vient faire un test de prélèvement dans l'arrière-gorge.
D'accord. Comment ça se déroule actuellement, Madame Lejeune, entre vos résidents et leurs familles ? Comment communiquent les familles avec les personnes qui sont dans votre établissement ?
Alors, nous avons plusieurs possibilités qui sont proposées aux résidents et à leurs familles pour pouvoir rester en contact, puisqu'on sait bien que c'est très important pour les résidents de garder le contact avec leurs proches, et c'est aussi très important pour les proches de garder le contact avec les résidents qui sont hébergés à l'EHPAD. Donc, on organise des appels via le téléphone classique, j'ai envie de dire. Donc, la possibilité est donnée à chaque proche d'appeler et de parler à son aîné via le canal classique de téléphone. On a mis en place également des appels visio avec des tablettes qui nous ont été données par la Fondation Boulanger sous l'égide de la Fondation de France, et je tiens à les remercier parce que ça nous a permis de mettre en place les appels visio en plus d'autres actions que je vous détaillerai probablement après. Les familles peuvent recevoir des photos de leurs proches par mail.
D'accord.
Et puis, nous avons également ouvert un groupe qui est fermé via les réseaux sociaux, qui permet aux familles de voir des photos de ce qui se passe dans l'établissement, de leurs proches, et de pouvoir être rassurés et de garder le contact avec l'ensemble de l'équipe et avec leurs proches.
Alors Marie-Laure Lejeune, vous me disiez à l'instant que vous aviez mis en place des actions spécifiques durant cette période, lesquelles ?
Alors, on a mis en place des activités encore plus adaptées, on va dire ça comme ça, pour changer les idées des résidents, parce que c'est important de pouvoir se divertir, et l'ensemble de l'équipe met tout en œuvre pour pouvoir divertir les résidents et continuer à être dans la bonne humeur, comme je disais tout à l'heure. Comment fait-on ça ? Donc, on organise des activités en individuel dans la chambre du résident. Donc, ça peut être des activités manuelles ou d'autres activités qui plaisent aux résidents. Ça peut être aussi des activités dans les couloirs, donc des activités des champs, des lotos, plein de choses un petit peu gaies. On affiche aussi des messages de soutien et j'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui nous manifestent leur soutien au quotidien. On reçoit beaucoup de dessins d'enfants, on reçoit des messages, des poèmes, de différentes personnes, alors des familles. Tout d'abord, donc ça, grand merci pour ces messages de soutien, mais aussi d'autres personnes de la société qui nous envoient spontanément des messages de soutien. Et c'est vraiment très très important aujourd'hui pour les résidents et pour les professionnels d'avoir ces messages de soutien.
Voilà, oui, ce sont des messages dont les résidents ont besoin, vous me disiez, des messages de soutien, de réconfort, tout comme les personnels, j'imagine.
Tout à fait.
Alors, le confinement va durer. Hein. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé hier. Hein. Une levée progressive devrait être mise en œuvre à partir du 11 mai. Vous attendiez à une durée aussi longue du confinement ?
Oui et non. Enfin, oui, on n'avait pas de date précise en tête. On savait très bien qu'il y avait des chances pour que le confinement ne soit pas levé au mois d'avril. Après, on a bien conscience que c'est dans l'intérêt des résidents et c'est bien comme ça qu'on leur a expliqué depuis le début que toutes les mesures qui avaient été mises en place depuis début mars ont été mises en place pour les protéger et pour leur permettre de conserver une bonne santé.
Alors, quelles actions peuvent mener les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent auprès de votre établissement ? Comment peut-on vous aider ?
Je parlais de messages de soutien tout à l'heure, donc ça, n'hésitez pas à continuer à nous manifester ces messages de soutien. Vous pouvez, vous auditeurs de Radio Plus, nous envoyer tous vos messages de soutien sur la boîte mail de l'animatrice. Je peux vous détailler, hein, cette adresse mail, c'est animatricecourrière@viactive.asso.fr. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, toute manifestation de réconfort, j'ai envie de dire, pour les résidents et pour les professionnels sont les bienvenues. Alors, comme ça, je pense à des fleurs qui peuvent aussi égayer le quotidien des résidents. Je pense à de la crème hydratante pour les mains des professionnels qui sont mis à rude épreuve de par le lavage intensif des mains et les produits hydroalcooliques. Il n'y a pas de liste, quoi. Enfin, on est sensible à toutes les manifestations de réconfort et de soutien de la part des auditeurs.
Alors, quel message pour terminer, Marie-Laure Lejeune, souhaitez-vous faire passer à celles et ceux qui nous écoutent ?
Si j'ai un message à faire passer, c'est bien de rester chacun chez soi et tous ensemble, j'ai envie de dire, comme beaucoup de choses qui sont répétés au travers des médias. Ça peut paraître difficile pour tout un chacun de rester confiné à domicile. Mais comme me l'ont dit certains résidents qui prennent le confinement avec beaucoup de philosophie, c'est à l'identique pour eux, en tout cas, des mesures qui ont été prises pendant la guerre pour l'effort collectif. D'ailleurs, c'est une guerre, puisque Monsieur le Président de la République nous l'a rappelé. Si on veut pouvoir vivre des jours meilleurs, restons chez nous.
Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laure Lejeune, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'EHPAD Les Violettes, située à Courrières. Merci à vous.
Il n'y a pas de quoi.
Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/radioplus62. Radio Plus, Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
que c'est si grave. Souris un peu. Le monde, cher Miss Blue, n'est pas tout rose. Y a du rouge partout. Se déplume, mon œillet lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur, pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager.
Elle est si frélesquive, sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours.
Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire, même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'enfuir. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter.
La victime est si belle et le crime est si gai.
Il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire.
Cœur de loup,
ni de quitter la cellule. Et qu'elle aura beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps tout le cœur de l'eau, ni de quitter la cellule. Et qu'elle aura beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps tout le cœur de l'eau, ni de quitter la cellule. Et qu'elle aura beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime.
Philippe Lafontaine à l'instant, et juste avant, c'était Alain Chamfort sur Radio Plus. Tout de suite, on passe à l'actualité du département. Des chèques-services financés par l'État pour permettre l'accès aux produits d'alimentation et d'hygiène pour les personnes sans domicile fixe. Dans ce contexte de crise sanitaire inédit depuis un siècle, un dispositif exceptionnel de distribution de chèques-services vient d'être lancé par le ministre chargé de la ville et du logement, appuyé par les services territoriaux de l'État pour permettre aux personnes sans domicile fixe. Sans domicile et sans ressources d'acheter des produits d'alimentation et d'hygiène pendant la crise sanitaire. Ce dispositif vient en complément des actions des collectivités locales et des associations Maraude et Distribution Alimentaire qui demeurent indispensables. Fabien Subdry, préfet du Pas-de-Calais, a souhaité prioriser plus spécifiquement dans le département, conformément aux directives nationales, les personnes qui n'ont pas accès à une offre alimentaire de première nécessité et qui vivent à la rue, à l'hôtel ou dans des structures d'hébergement en diffus. Et puis la direction départementale de la cohésion sociale, toujours sur ce même sujet, est chargée de l'organisation et de la coordination de ce dispositif exceptionnel. Cette aide devrait bénéficier dans un premier temps à plus de 600 personnes sur l'ensemble du territoire du Pas-de-Calais. 18 000 chèques d'un montant unitaire de 3,50 euros seront distribués par 6 associations agréées de solidarité aux personnes sans domicile pour un montant de 7 euros par jour en fonction de leurs besoins. Ces chèques peuvent être utilisés auprès de plus de 220 000 enseignes sans limitation de montant ou de quantité. Ils seront utilisables durant la période de crise sanitaire. La préfecture du Pas-de-Calais a dressé le bilan le 9 avril dernier des aides attribuées jusqu'à présent aux entreprises. Ce sont 112 141 salariés, soit 34% de l'effectif salarié du département qui bénéficient de l'activité partielle, représentant 51,2 millions d'heures autorisées. Et ce sont donc 10 643 entreprises qui bénéficient actuellement de ce dispositif mis en place par l'État, soit une moyenne de 10,54 salariés par entreprise bénéficiaire. 860 demandes de mesures à caractère fiscal ont été examinées, représentant un montant total de 19 millions d'euros de report d'impôts directs, soit 23 000 euros par bénéficiaire. Concernant le report des échéances sociales, les entreprises redevables de cotisations sociales sur salaire et qui sont en difficulté financière majeure du fait de la crise sanitaire pourront bénéficier du report total ou partiel de leur échéance mensuelle ou trimestrielle à partir du 15 avril 2020 à l'URSSAF. Elles peuvent moduler leur paiement en fonction de leur capacité à honorer cette échéance et il n'est pas nécessaire d'adresser une demande à l'organisme. Les mêmes modalités sont applicables pour les employeurs et les exploitants du régime agricole en avril, ainsi que pour la totalité des employeurs en paiement mensuel et trimestriel qui acquittent les cotisations de retraite complémentaires le 25 avril. Pour les travailleurs indépendants, l'échéance du 20 avril est automatiquement reportée. Enfin, les micro-entrepreneurs doivent déclarer le montant réel de leur chiffre d'affaires pour l'échéance du 30 avril et effectuer un règlement selon leur capacité à payer. À l'échelle de l'URSSAF Nord et du Pas-de-Calais, ce sont plus de 3500 demandes au titre de l'action sanitaire et sociale des travailleurs indépendants qui sont en cours d'examen et dont les premiers paiements interviendront dans les prochains jours. 62 entreprises ont saisi la médiation du crédit pour un effectif cumulé de 378 personnes, soit une moyenne de 6 salariés par société. 12 dossiers ont déjà été clôturés, dont 10 après que les entreprises concernées aient obtenu satisfaction sur leur demande de report d'échéance, de remboursement de crédit ou sur leur demande d'obtention d'un prêt garanti par l'État. Dans le même temps, 112 entreprises se sont adressées aux correspondants TPE-PME pour être orientées vers le dispositif adapté. Sont concernés par le fonds de solidarité pouvant aller jusqu'à 1500 euros les très petites entreprises, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales qui ont 10 salariés au plus et qui ont moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires ainsi qu'un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros. Et depuis le 1er avril dernier, ce sont 5 797 entreprises qui ont bénéficié de cette aide, soit un montant total de 7,5 millions d'euros versés après avoir fait une simple déclaration sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. www.emploi.fr. Et puis, concernant les demandeurs d'emploi, plus de 80% des demandeurs d'emploi ont déjà actualisé leurs droits grâce à la mobilisation des équipes de Pôle emploi qui ont contacté individuellement les personnes concernées. Enfin, au 8 avril 2020, ce sont donc au total plus de 130 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été mobilisés au bénéfice des acteurs économiques et des entreprises du territoire pour surmonter cette crise sanitaire. Voilà, c'est la fin de cette émission Savoir Plus, réalisée une fois plus dans des conditions particulières qui m'obligent à l'interrompre prématurément. Merci de l'avoir suivi. À midi, vous avez rendez-vous avec le Flash Info. À 14h, vous retrouverez un nouveau numéro de la Dolce Vita. À 15h, tous en scène et plus. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous.